RTL.
13h.
RFI Musique.
Il est 13h ici à Paris, 14h à Kiev. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, la crise provoquée par l'éviction du très populaire ministre de la Défense en Ukraine est loin d'être résolue. Le président Volodymyr Zelensky, à l'initiative de ce limogeage, tente de reprendre la main. Un nouveau grand rassemblement est de nouveau prévu ce soir à Kiev, où l'on retrouvera Lucas Lazo dès le début de ce journal. Les Nations Unies viennent d'annoncer de nouvelles sanctions contre des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, accusés de compromettre la paix et la stabilité du pays. Pauline Azidi nous en dira plus dans un instant de Kinshasa. Et puis le plan 1 milliard d'arbres d'Emmanuel Macron est retoqué par le Conseil d'État alors qu'une nouvelle vague de canicule vient juste de se terminer en France. Un plan jugé peu efficace face au réchauffement climatique par les associations. Deux jours après l'annonce du limogeage du très populaire ministre de la Défense, la crise s'enlise en Ukraine. Mikhailo Fedorov représente la jeune garde qui a poussé à utiliser massivement les nouvelles technologies sur le champ de bataille, notamment les drones, pour éviter au maximum les pertes humaines. Son éviction ne passe pas et après une première journée de mobilisation dans les principales villes du pays, notamment marquée par la jeunesse des manifestants, les protestations se poursuivent aujourd'hui. Bonjour Lucas Lazo.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Vous êtes en direct à Kiev, sur le lieu de rassemblement. Quels sont les mots d'ordre autour de vous? Quelle est l'ambiance?
Écoutez, la foule est déterminée. Une centaine de manifestants sont rassemblés derrière moi sur la place Ivana Franka qui jouxte la présidence de la République et le Parlement ukrainien. Ils scandent des slogans dans une ambiance bon enfant pour réclamer le retour du ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. Après le choc de l'annonce, l'incompréhension demeure. Pourquoi se séparer des responsables les plus efficaces dans la conduite des opérations militaires? Sur les pelouses alentours, des jeunes dessinent de nouvelles pancartes pour préparer la mobilisation de ce soir. À n'en pas douter, la place va se remplir au fur et à mesure de la journée. Les manifestants se sont séparés hier en se faisant la promesse de revenir aujourd'hui et tous les jours jusqu'à être entendus par le président Zelensky. Une jeune maman que j'ai rencontrée hier soir, Olga, et que j'ai recroisée ce matin, m'expliquait qu'il n'est même plus vraiment question de Fedorov ou pas Fedorov, mais de défendre la démocratie ukrainienne. Elle ne comprend pas que de telles décisions puissent être prises sans consultation.
Une mobilisation que l'on suivra tout au long de la journée. Avec vous, Lucas Lazo, vous étiez en direct de Kiev. En Russie, à deux mois des élections législatives, les premières élections de ce type depuis le début de la guerre, le climat continue à se tendre. La justice a condamné l'opposant Boris Nadiejdine, une des rares figures politiques anti-guerre encore sur le sol russe. Ce vétéran de la politique russe voulait tenter de se présenter à la députation. Ce sera impossible. Il a été désigné agent de l'étranger la semaine dernière et jugé coupable aujourd'hui de démonstration de symboles extrémistes. Anissa El-Jabri.
Désigné agent de l'étranger, Boris Nadiejdine savait depuis une semaine qu'il ne pouvait plus être élu, mais rien ne lui interdisait sur le papier de continuer à collecter des signatures. C'est sans doute cet entêtement, selon plusieurs observateurs, qui lui a valu ses poursuites déclenchées et jugées en un temps record. Ce qui lui a été reproché, l'apparition furtive d'une photo d'Alexei Navalny sur sa chaîne Telegram en 2023. Pour ça, Boris Nadiejdine a écopé d'une amende de 1000 roubles, 11 euros, une peine très légère, d'autant qu'il risquait jusqu'à 2 semaines de prison. Les jours précédents son procès, ce politique de 63 ans qui est diabétique et a fait 2 AVC avait indiqué qu'il était sûr de ne pas survivre à un séjour derrière les barreaux. Son audience a d'ailleurs été marquée ce matin par l'appel en urgence d'une ambulance, sa tension étant brusquement montée. La veille de son passage au tribunal, Boris Nadiejdine avait aussi affirmé s'être vu interdire de sortir de Russie. À la sortie, il a notamment déclaré: on vit dans un état malade, tout ce cirque engagé pour m'empêcher de me présenter aux élections. Aujourd'hui, plus personne n'exclut que d'autres poursuites puissent à nouveau être engagées contre lui. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
La Chine dénonce de pures inventions sans fondement après une allocution de Donald Trump très virulente, accusant Pékin d'ingérence électorale aux États-Unis, fustigeant aussi un état profond hostile et une opposition démocrate dangereuse à 3 mois des élections cruciales de mi-mandat qui pourrait lui être défavorable. Le locataire de la Maison-Blanche, toujours empêtré dans sa guerre impopulaire en Iran. La nuit dernière, les États-Unis ont bombardé, disent-ils, des cibles militaires. Téhéran affirme au contraire que des infrastructures civiles ont été touchées. Direction à présent la République démocratique du Congo. Le comité des sanctions des Nations Unies vient d'annoncer de nouvelles sanctions contre des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. On retrouve à Kinshasa Paulina Zidi. Paulina, la liste validée le 14 juillet et publiée hier compte désormais 6 responsables de mouvements armés et 2 nouvelles entités.
Oui, plusieurs membres du groupe armé AFC-M23 qui contrôlent une partie des 2 provinces de l'Est du pays apparaissent sur cette nouvelle liste, notamment Corneille Nanga, l'ancien président de la commission électorale congolaise et le dirigeant de l'alliance Fleuve Congo, une des entités ajoutées à cette liste de sanctions. On retrouve aussi John Imani Zenze, considéré comme le chef du renseignement du M23, composante militaire de l'AFC et déjà sanctionnée par les Nations Unies. À ces 2 noms s'ajoute Charles Sematama, chef militaire du groupe armé Tirwaneo, groupe allié de la FCM23 et qui fait lui aussi son apparition sur la liste. Mohamed Loumissa, commandant et responsable de la logistique extérieure des ADF, mouvement djihadiste affilié lui à l'organisation État islamique. Enfin, 2 membres des FDLR, groupe armé composé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais, le général de brigade autoproclamé Sébastien Ouimbabazi et le commandant Gustave Goupoyo. Les Nations Unies indiquent que les personnes et les entités désignées sont accusées d'être impliquées dans des activités qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité dans l'est de la RDC. Alors théoriquement, les pays membres des Nations Unies sont donc tenus d'appliquer ces sanctions, qui comprend le gel des avoirs, une interdiction de voyager, et pour les groupes armés cités, donc l'AFC et Tirwaneo, il y a aussi un embargo total sur les armes.
Paulina Zidi, en direct de Kinshasa. La canicule cède un peu de terrain en Europe, mais pas les incendies près de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne. Plus de 12 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le risque de propagation reste très élevé, préviennent les autorités, à cause du vent. La France, elle, sort tout juste de la canicule. L'incendie de la forêt de Fontainebleau, près de Paris, est à peine éteint, au moment où le dispositif phare du plan 1 milliard d'arbres du président Macron est retoqué par le Conseil d'État, saisi par l'Association de protection des forêts Canopée. La plus haute juridiction administrative estime que le dispositif d'aide pour l'adaptation des forêts a une incidence significative sur l'environnement et aurait dû être précédé d'une consultation du public. Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Karine.
Les dispositifs de soutien au renouvellement des forêts sont critiqués depuis longtemps par les défenseurs de l'environnement.
Oui, et avec cette décision du Conseil d'État, c'est une victoire pour l'association Canopée. Elle interpellait depuis 2022 sur les conditions du dispositif d'aide pour l'adaptation des forêts. Pierre-Xavier Ferron en est le chargé de plaidoyer climat-énergie. Et selon lui, c'est l'occasion pour le gouvernement de revoir sa copie.
Ce que l'on critique dans ce plan, c'est que justement, il permet de raser des forêts qui sont encore en bonne santé pour replanter d'autres arbres. Dès que vous avez 20% des arbres d'une forêt qui sont un peu dépérissants, vous pouvez raser cette forêt. Alors que quand vous avez 20% de dépérissement, c'est encore une forêt qui est largement robuste et qui pourrait s'adapter au changement climatique.
Autre point problématique du plan, l'absence de priorité des aides aux propriétaires de forêts victimes d'incendies. Dans une actualité, vous l'avez dit, marquée par de multiples feux de forêt en cours en France. Pierre-Xavier Ferron interpelle aussi sur la reforestation mono-espèce, c'est-à-dire, Karine, ne planter qu'une seule espèce d'arbre dans une zone particulière.
Il n'y a pas de seuil suffisant, selon moi, qui sont fixés pour obliger, lorsqu'on subventionne une replantation d'arbres, à diversifier les arbres. Pourquoi c'est problématique? Parce que les forêts qui sont monospécifiques, elles sont moins résilientes au réchauffement climatique, aux tempêtes.
Avec la consultation du public, l'association Canopée espère voir apparaître de nouveaux critères pour préserver les forêts existantes et les aider à s'adapter.
Juliette Pietraszewski, Andy Burnham va devenir le nouveau chef des travaillistes britanniques aujourd'hui lors du congrès congrès extraordinaire du parti à Londres avant son installation au poste de Premier ministre lundi, après la démission forcée de Keir Starmer. L'ancien maire du Grand Manchester entend transformer le Labour sous pression du parti anti-immigration Reform UK en tête des sondages. Il compte également impulser de grands changements à la tête du Royaume-Uni, notamment en décentralisant le pouvoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de RFI. RFI Midi, c'est dans moins d'une demi-heure.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Bonjour, cette semaine, on plonge dans les arcanes de la programmation de RFI à l'occasion d'une question d'auditeur à Lubumbashi. On part au Festival d'Avignon parler théâtre avec Pascal Paradou pour le cycle de lecture « ça va le monde ». Mais d'abord, vous nous avez posé de nombreuses questions sur l'actualité en Iran. Bonjour Sami Boukhelifa.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous rentrez d'Iran, vous avez assisté aux funérailles d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien tué au premier jour de la guerre menée par Israël et les États-Unis. Les autorités de Téhéran avaient ouvert le pays à la presse internationale à cette occasion et des auditeurs comme Mohamed Saïd Omar ou Nuo Bakayoko nous demandent pourquoi, à l'occasion de ces obsèques, nous nous sommes tant intéressés à l'absence de Mojtaba Khamenei.
Et pourquoi pas, j'allais dire. Mojtaba Khamenei, ça reste l'homme le plus fort de la République islamique. Le guide suprême, c'est véritablement le chef d'État de la République islamique. Avant lui, il y avait son père. Donc c'est lui qui succède à son père quelques jours après l'assassinat de celui-ci par Israël et les États-Unis. Pourquoi on en parle ? Parce que c'est important. Est-ce que si Emmanuel Macron, le président français, ou Donald Trump disparaissaient pendant une longue période, qu'on n'avait aucune nouvelle d'eux, est-ce qu'on s'interrogerait ou pas ? Donc finalement, sa disparition suscite des questions. Maintenant, est-ce qu'on en a fait plein de sujets ? Pas forcément. On s'est interrogé, en fait, avec la rédaction en chef. On s'est dit, quelle est l'importance qu'on doit consacrer à ce sujet ?
HDR. Le mix. Le mix de toutes les cultures. 99.1.
C'est sur le 99.1 FM Radio HDR, le mix de toutes les cultures.
Le mix des cultures.
C'est sur le 99.1 FM.
I didn't shoot no deputy.
Madrid, estoy en Medellín, estoy en Nueva York, estoy en Culiacán.
To step off a lot, you see, you misunderstood. A sample just a tactic, a portion of my method, a tool.
In fact, it's
only of importance when I make it a priority.
And what we samples are by the majority.
But you a minority in terms of thought,
narrow-minded
and poorly taught about hip-hop and all the silly game to erase my music so no one can use it.
You step on us and we'll step on you.
Can't have your cake and eat it too.
Talking all that jazz. Talk more jazz than proof, and when you lie and